19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien, bonsoir, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, les informés, on va démarrer une toute nouvelle semaine. On est lundi tranquillement et on lance cette semaine avec plein de sujets qui vont vous intéresser. En tout cas, soyez les bienvenus, vous écoutez Beur FM et c'est parti pour les informer. Au programme, au sommaire, alors nous allons d'abord aller direction, on va parler tourisme, on va s'intéresser à l'Île-de-France. Est-ce que ce mois de rentrée, est-ce qu'il est, il est plutôt grisonnant ou est-ce qu'il est plutôt intéressant? On va voir si le tourisme reprend forme et on va en parler tout à l'heure avec la déléguée spéciale justement chargée du tourisme en Île-de-France auprès de Valérie Pécresse. Ensuite, 01 53 48 3000, nous parlerons avec vous au standard sur plusieurs sujets que je soumettrai tout à l'heure, et puis le face-à-face avec Pierre-Henri et Rayet JB, c'est sur à la fois deux sujets, 17 octobre 1961, Emmanuel Macron qui prend des coups. On parlera de la hausse des prix, est-ce que cela présage justement d'un retour d'une crise, notamment avec les gilets jaunes, et puis on parlera du Covid. Pourquoi faut-il s'inquiéter de la hausse du taux d'incidence? Paraît-il que le Covid est en train de reprendre forme. Ben, on en parlera tout à l'heure. Est-ce vrai? Est-ce simplement une prévention? Allez, c'est parti, les informés, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Bonjour, tout de suite, vous le savez, c'est l'invité actu. C'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, vous savez, c'est avec Hamida Rezegh. Bonjour Hamida Rezegh.
Bonjour Monsieur Farkan.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée spéciale en charge du tourisme à la région Île-de-France auprès de Valérie Pécresse, donc la région d'Île-de-France. Merci Madame la déléguée spéciale. Alors je voudrais vous poser cette première question tout d'abord. Vous-même, je vous vois pas mal évidemment inaugurer pas mal de lieux. Est-ce que cela sous-entend que les choses sont en train de reprendre forme doucement en Île-de-France?
Bah, déjà, je vous remercie de votre invitation, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'interviens sur votre antenne. Hein, j'espère que ce ne sera pas la dernière. On a beaucoup de sujets à évoquer pour cette année et l'année prochaine. Et vous dire que, effectivement, depuis deux ans, on connaît cette crise sanitaire hein, qui a eu un impact très, très violent en matière de développement économique et, bien évidemment, sur le sujet du tourisme. Et c'est vrai que vous le dites, j'inaugure énormément de sites touristiques, parce qu'on accompagne hein, beaucoup de sites touristiques dans le cadre du fonds de soutien au tourisme. Et c'est vrai qu'en 2019, on avait eu une année extraordinaire de plus de 50 millions de touristes qui faisaient partie des 100 millions de touristes qui étaient arrivés en région Île-de-France, parce que la région Île-de-France est la première destination mondiale. Et cette année, on a eu environ 5 millions de touristes.
Ce qui veut dire quoi? Ça a chuté et à quelle période cela a chuté? Est-ce que c'est lié au Covid notamment, à la crise sanitaire?
Ah bah oui, ça, c'est lié à la crise sanitaire, parce que là, pour le premier semestre, on a eu 5 millions de touristes, on a eu un peu plus l'année dernière à la même période, et bien évidemment, le Covid a justement freiné cette arrivée de touristes qui viennent du monde entier hein, pour visiter notre région, et c'est vrai que la crise sanitaire, et puis c'est vrai que cette année, on a eu des touristes qui sont un peu plus venus, un peu, que ce soit des Espagnols, un peu d'Anglais, un peu d'Allemands, et on a eu une saison beaucoup plus importante que l'année dernière, ça veut dire qu'on a eu beaucoup plus de touristes qui ont fait du tourisme de loisirs.
Est-ce que les Américains, on peut dire qu'ils sont de retour?
Ah ben les Américains, oui, ils sont un peu de retour, parce que maintenant les frontières vont être réouvertes, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a des bons indices de réservation d'hôtels pour septembre, octobre et novembre, donc ça veut dire qu'il y aura bien évidemment un tourisme d'affaires qui va revenir, parce que de septembre à jusqu'à décembre, on a un peu plus de 50 salons qui vont se créer, donc bien évidemment le tourisme d'affaires va revenir, et c'est une bonne nouvelle.
Donc alors, vous êtes en train de me dire que la destination, en tout cas Paris-Île-de-France, est en train de retrouver un peu de couleur, si j'ai bien compris.
Ah ben complètement, je crois en plus avec l'été indien, c'est déjà un point positif, et puis bien évidemment, oui, ça reprend beaucoup de couleurs. Nous, on est très optimistes, parce que voilà, on a vraiment eu des chiffres assez catastrophiques l'année dernière, et là on est vraiment que ce soit tous les partenaires touristiques dans cet écosystème justement, on va travailler ensemble pour que la région reste cette première destination touristique.
D'ailleurs, madame la déléguée spéciale chargée du tourisme, madame Amida Rezegh, ce tourisme est reparti quand précisément? Est-ce que c'est cet été? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est lié à quoi notamment?
Il est reparti à partir du moment où les jauges, on a diminué les jauges de fréquentation. Mmh. On a un élément important, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été fermée pendant plus de 8 mois. Elle a réouvert cet été. Et là, justement, on a eu de plus en plus de touristes, parce que on sait très bien que la Tour Eiffel, c'est le symbole quand même de la France, du tourisme en Île-de-France. Mmh. Et là, à partir de là, les touristes sont venus. Mmh. Après, quand on a quand il a été mis en place le pass sanitaire, c'est vrai que là, on a eu une petite baisse. Globalement, c'est vrai que beaucoup de touristes de l'Île-de-France, hein, les Franciliens et les Franciliennes sont énormément revenus sur les sites touristiques. Après, il y a eu beaucoup d'activités. Nous, à la région Île-de-France, on a proposé plus de 3000 manifestations culturelles, sportives. Ah oui. Donc, du coup, ça veut dire que là, les touristes pouvaient venir tranquillement visiter tous les sites touristiques que l'on a en Île-de-France.
Alors, j'ai une question aussi à vous poser, c'est concernant le tourisme d'affaires. Beaucoup se posent la question, et est-ce que c'est encore timide? Est-ce qu'il y a des signes qui nous encouragent aujourd'hui?
Les signes qui nous encouragent, c'est beaucoup de salons, parce que de congrès, il faut savoir comme l'année dernière, on a eu plus de 800 annulations de foires, de salons, de congrès. Et là, cette année, ça repart. On a eu la Fashion Week, là, on a la FIAC cette semaine. On a beaucoup de salons qui réouvrent, donc on en a environ entre 200 et 280 jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc ça veut dire quelque part que le tourisme d'affaires reprend. Et donc, on a eu une réunion il y a un peu moins d'un mois avec Jean-Baptiste Lemoine et M. Alain Guézet, donc qui sont en charge de ces questions. Hein. Et nous, ce qu'on veut avec l'État, c'est de pouvoir faire un plan de communication massif et de promotion pour que la région reste la première destination. Parce que lorsqu'on a, par exemple, l'État qui a mis beaucoup de millions d'euros pour le plan montagne, d'ailleurs, ils ont réitéré une deuxième aide pour le plan montagne, je crois que la région, elle mérite d'avoir un plan de communication massive, parce qu'on a des touristes du monde entier qui viennent. Et je crois que c'est vraiment important que la région, l'État, les collectivités soient la main dans la main pour qu'il y ait vraiment cette relance touristique en Île-de-France.
Ouais. Vous avez parlé de Tour Eiffel tout à l'heure, c'est le signe, évidemment, le symbole de Paris, le symbole de la France. Je me rappelle encore qu'il y a encore quelques années, voire quelques mois avant le Covid, l'arrivée du Covid, il fallait faire la queue, et parfois il fallait faire la queue pendant de nombreuses heures. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout la queue pour monter sur la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Est-ce qu'il y a une interprétation, ma chère Amida Rezegh?
Non, une interprétation, c'est que je pense que la Tour Eiffel, comme beaucoup de sites touristiques, justement, ont beaucoup travaillé, vous savez, sur la lutte contre le surtourisme. Le surtourisme, c'est des sites qui sont énormément fréquentés en matière de flux, donc on retrouve vraiment un regroupement énormément de touristes, comme on voit dans d'autres capitales à Barcelone, dans d'autres capitales européennes très touristiques. Et je crois que ce soit avec des partenaires touristiques, avec le comité régional du tourisme, avec la région, on travaille beaucoup sur des plans de communication, justement, où le fait... on veut que les touristes n'aillent pas simplement qu'à la Tour Eiffel, ils peuvent aller visiter des sites dans le 77, le musée de la Grande Guerre, ils peuvent aller dans le 95, aller sur les bas d'Auvers-sur-Oise, que ce soit sur les peintres et la peinture impressionniste. Donc, le fait justement d'avoir dissipé un peu les touristes un peu partout en Île-de-France, du coup, on a des sites comme la Tour Eiffel, comme le musée du Louvre, comme d'autres sites touristiques qui sont moins fréquentés.
Bon.
Enfin, pas moins fréquenté, où il y a moins cette masse de concentration de touristes, en fait.
Madame la déléguée spéciale, justement, d'Île-de-France, les hôteliers étaient mécontents encore il y a quelques mois, en juin dernier d'ailleurs. Hein. Certains ont même d'ailleurs dû fermer, d'autres ont dû réinvestir, certains ont dû profiter du Covid, de la crise sanitaire, pour faire des rénovations. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les hôteliers, qui attendaient d'ailleurs septembre, ce mois de septembre, vraiment à grands pas, hein?
C'est vrai qu'on a beaucoup d'hôtels, hein, les hôtels 2, 3 étoiles qui ont dû fermer définitivement. On a environ 30%.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est beaucoup, parce que justement cette crise, elle a vraiment beaucoup beaucoup eu d'impact sur ce secteur-là.
Oui.
En tout cas, ceux qui justement arrivent à mieux s'en sortir, c'est les grands hôtels, hein, 4 étoiles, 5 étoiles, on voit que les réservations sont assez complètes.
Ou les palaces.
Octobre. Ou les palaces, oui, tout à fait, c'est les palaces, hein, que ce soit le Meurice, que ce soit le Place d'Athénée, le Bristol, enfin tous ces grands hôtels, et puis ils bénéficient aussi du tourisme de loisirs et du tourisme d'affaires. Et ces hôtels confirmés, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, à la région, on a annulé la dette Covid de 7000 entreprises. Et il y a des
hôtels derrière.
Donc, on a annulé cette dette-là parce qu'on avait lancé justement un fonds de résilience de 100 millions d'euros qui, justement, a été créé pour aider, accompagner les entreprises qui ont été impactées par la crise. Et là, on a un peu plus de 3000 entreprises dans le tourisme, justement, où on va annuler cette dette.
Alors, la France, hein, on ne l'apprend à personne d'ailleurs, est le pays le plus visité au monde. Hein. Avec combien? 89 millions, 88, 90 millions?
Ah bah écoutez, en 2019, avant la crise Covid, on avait 100 millions de touristes.
100 millions de touristes, je suis en retard. 100 millions de touristes. C'est beaucoup de recettes, j'imagine.
Ah bah oui, c'est énormément de recettes. Hein. Déjà en Ile-de-France, on était environ à plus de 20 milliards. Donc ce qui est noir.
Derrière l'Espagne et les États-Unis.
Exactement, derrière l'Espagne et les États-Unis. Là, avec la crise Covid, on n'était même pas à la moitié, hein, beaucoup moins d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quand même 500 000 emplois directs et indirects. Donc vous imaginez un peu les retombées derrière. Mais
c'était ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça régénère? Est-ce que ça de nouveau... Le tourisme retrouve évidemment des couleurs au niveau de l'emploi.
Bah justement, vous savez, par rapport à cette crise sanitaire, que ce soit dans les métiers de la restauration, le métier de l'hôtellerie aussi, moi j'ai beaucoup discuté avec des hôtels où justement ils ont du mal à recruter parce que beaucoup de salariés soit ont changé de métier, soit se sont destinés vers autre chose ou parce que les horaires ne leur convenaient plus et que voilà. Et c'est vrai que l'emploi a été énormément très très affecté.
Oui.
On a aussi le secteur des guides conférenciers. Vous savez que pendant la crise Covid, on a environ 2000 guides conférenciers en Ile-de-France.
Oui.
Alors nous, moi je les ai reçus, enfin la fédération, je les ai reçus et j'ai trouvé une idée qui s'est appliquée durant cet été, qui va s'appliquer aussi en octobre,
oui,
de pouvoir proposer 1500 visites guidées.
Ah oui.
Voilà, ça c'est très important parce que...
Voilà une bonne idée, effectivement.
Ouais, ils se sont retrouvés sans emploi, beaucoup ont dû arrêter, s'orienter vers des métiers d'enseignement pour ces guides conférenciers. Et là, on va renouveler encore cette opération pendant les vacances de la Toussaint, parce que c'est vraiment une opération qui marche énormément. Et c'est vrai que, comme ils avaient des contrats un peu spécifiques, hein, il y avait des temps partiels, il y avait ceux aussi qui étaient auto-entrepreneurs, donc il fallait vraiment ajuster. Mmh. Et là, on va vraiment les accompagner. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de guides conférenciers qui sont très contents de cette job qu'on a accompagnée cette année.
Dites-moi, Madame Hamida Rezeg, quels sont les enjeux qui vous attendent prochainement?
Ah ben, les enjeux qui nous attendent, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux olympiques et paralympiques, donc on y travaille beaucoup justement à la région. Et puis on va réécrire ce qu'on appelle un nouveau schéma régional touristique qu'on va voter au premier semestre 2022, où là on va retravailler encore avec tous les partenaires, tous les départements de toute l'île de France pour réécrire une nouvelle page sur le tourisme en Île-de-France.
Et les chantiers qui vous attendent?
Les chantiers qui nous attendent, mais écoutez, là on continue hein, à aider beaucoup beaucoup d'entreprises dans le cadre du tourisme avec un fonds de soutien hein, qu'on a. On les aide beaucoup dans la promotion, la communication, la sécurité aussi, ça c'est important.
Ouais.
Et donc c'est vraiment des chantiers importants. C'est vraiment du sur-mesure qu'on fait avec les partenaires touristiques. C'est vraiment des choses importantes. On sera aussi présent à Dubaï hein, pour l'expo universelle. On aura le pavillon de la région de France, on aura le comité régional du tourisme. Et puis le but, c'est de prendre beaucoup de rendez-vous avec les visiteurs étrangers pour qu'ils reviennent visiter la région.
Donc, si j'ai bien compris, Madame la déléguée spéciale en charge du tourisme, vous mettez le paquet pour que Paris et l'Île-de-France retrouvent ses couleurs d'antan, voire plus.
Exactement. Je pense que c'est notre... Moi, j'y crois. Je suis très optimiste.
On l'entend en tout cas. Ah, on l'entend.
Je suis très optimiste parce que je me dis ça va repartir aussi vite que ça s'est arrêté. Que ce soit aussi sur le tourisme, on va dire, avec la vitesse de croisière de l'aérien. Donc, je crois que il faut y aller. Il faut pas s'arrêter. Il faut pas baisser les bras.
Mais je le confirme. Je vous vois sur tous les fronts.
Et ça, c'est important. On est élus pour ça, hein. Donc, ouais. Je crois que c'est important d'être aux côtés des administrés, des citoyens, tous les partenaires qui nous font confiance, surtout. Et je crois que c'est important d'être optimiste pour eux et que ça va repartir.
Madame Hamida Rezegh, déléguée spéciale en charge du tourisme auprès de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir, évidemment, sur l'antenne encore de nouveau désinformée sur BFM. Merci à vous.
Merci à vous, au revoir.
À très bientôt, 19h15, nous allons marquer la pause pub. Et on se retrouve dans une poignée de minutes, 17 octobre 61. J'aimerais qu'on lance justement avec vous au 01 53 48 3000. Vous savez quoi? La reconnaissance de crimes inexcusables, ça c'est les termes évidemment d'Emmanuel Macron, mais surtout, c'est pas ça. Ce qui a provoqué évidemment la présence d'Emmanuel Macron sur la ville de Beson, sur le pot de Beson, là où la manifestation avait démarré, souvenez-vous, donc ce fameux 17 octobre 1961, eh bien ça a provoqué, elle a été condamnée par la droite et l'extrême droite. Bon, dites-moi si, évidemment, votre avis, ils ont condamné cette repentance d'Emmanuel Macron. On aura tout entendu, mais parlons-en ensemble. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h20, les informés, c'est parti tout de suite, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je voudrais vous entendre partout en France, nous appelez au 01 53 48 3000. Yanis vous attend en standard. Tout de suite, maintenant, je vous donne la parole concernant le 17 octobre 61. Eh bien, la droite et les gens de l'extrême droite disent que, eh bien, Emmanuel Macron n'aurait pas dû se repentir. Bon, écoutez, et que ces crimes inexcusables du 17 octobre 61, en tout cas, ils condamnent la repentance d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, par exemple, qui a déploré les déclarations samedi dernier du chef de l'État. Et puis chez les Républicains, Michel Barnier et Valérie Pécresse estiment que la France doit cesser de s'excuser à propos de la guerre d'Algérie. Alors, est-ce que la France doit cesser de s'excuser à propos de la guerre d'Algérie? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un vrai sujet, 01 53 48 3000. Je vous attends et tout de suite, je vous présente évidemment le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Pierre-Henri, bonjour, le boss. Le patron de France Fraternité. Comment ça va?
Eh bien, très bien et toujours très heureux d'être sur cette antenne.
Coup de pub, moi j'aime bien parce qu'il faut, c'est un vrai beau programme que je vous invite à écouter, chers amis auditeurs, tous les matins.
Tous les samedis matin et avec une rediffusion le dimanche matin à 8h20.
C'est ça, 8h20. 8h20 précise, notez bien.
Mot
piégé, animé, présenté par Pierre-Henri. Ça vaut le détour, il faut vraiment écouter, on apprend beaucoup de choses. Ray JB, bonjour.
Bonjour.
Président de l'association de la coopération France-Tunisie. Ça va, tout va bien?
Très bien.
Vous sortez d'un week-end justement francophone.
Tout à fait. On a tenu la première édition du sommet des Amis de la Francophonie dans la perspective de pouvoir porter un certain nombre de propositions pour le sommet de Djerba qui a été reporté à dans un an, mais on saura tenir le cap d'ici là.
Messieurs, tout de suite, je voudrais vous poser cette première question le 17 octobre 61, en attendant que nos auditeurs réagissent, mais ils réagissent quand ils veulent. Après, il y a toute une série d'autres sujets aussi, c'est les propos d'Emmanuel Macron sur le massacre du 17 octobre 61. On a fait toute une semaine spéciale, ils ont été fustigés de toutes parts, les amis. Aïe, 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 après avoir... Mais c'est une première pour le chef d'État de la 5e République d'assister à ces 60 ans du massacre d'Algériens à Paris. Pierre-Henri, il a eu raison, il n'a pas eu raison, il a même parlé, il a dénoncé des crimes inexcusables pour la République.
Mais oui, le président de la République, c'est le premier.
Ouais. Et dit que la gauche fustige que le chef d'État ne va pas assez loin. J'ai parlé de la droite, mais là je parle de la gauche.
Oui, mais alors, évidemment, on est dans une espèce de course à l'échalote. Ouais. La période électorale que nous connaissons, où évidemment toute initiative du président de la République était scrutée et allait faire l'objet d'un certain nombre de critiques. Je voudrais dire ici que, à la fois par sa présence et puis par le communiqué, le contenu du communiqué, il est allé plus loin que jamais aucun président n'est allé. François Hollande avait fait à l'époque, en 2012, un communiqué de trois lignes parlant d'une sanglante répression. Aujourd'hui, les mots sont forts. Il dit très clairement, la répression fut brutale, violente, sanglante. Plus de 12 000 Algériens furent arrêtés et transférés dans des centres de tri au centre de Coubertin, au palais de Coubertin,
le stade.
Au palais des sports. Et il parle de tragédie qui fut longtemps tue. Et voilà, il reconnaît ce crime qui est inexcusable pour la République. Alors, bien sûr, certains à gauche auraient voulu qu'on parle de crimes d'État. Et que l'on nomme, au-delà de Maurice Papon, qui était le patron de la préfecture de police, Roger Frey et Debré, qui étaient les ministres. Et d'une certaine manière, ils auraient voulu que l'on fasse porter la responsabilité sur De Gaulle. Et c'est quand même assez étrange, parce qu'au moment où vous avez un polémiste qui est invité partout et qui veut réhabiliter Pétain, voilà que d'autres voudraient mettre en accusation De Gaulle. Et puis, évidemment, l'ultra-droite, quand je parle d'ultra-droite, je parle de Marine Le Pen et de Zemmour. Là, on parle de repentance. Et de repentance de la part du chef de l'État. Ils sont dans le rôle qu'ils n'ont jamais quitté, en réalité, partisans de l'Algérie française, alimentant les réseaux de l'OAS. Voilà, et étant toujours...
Ah non, mais Marine Le Pen a pas loin, elle dit oui, mais c'est bon, appel à ses repentances et répétitions, ça devient insoutenable. A déclaré bien sûr la candidate du Rassemblement National.
Oui, mais il y a des tripatouilles.
Il dit alors que l'Algérie nous insulte tous les jours. Voilà, mais cessons.
Il y a des tripatouilleurs de mémoire qui cherchent tout simplement à exacerber les identités. Et on sait que c'est extrêmement dangereux. La période est vraiment très, très tendue. Il faut faire attention. Je renvoie au livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières. Il faut vraiment faire attention avec ça. Il faut apaiser, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des mémoires différentes. Moi, j'ai des amis, des proches qui sont français, dont les parents sont algériens, qui, y compris, n'ont pas de mémoire de cet événement. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer. Et dans les livres d'histoire, le 17 octobre 1961 est maintenant marqué comme un crime inexcusable pour la République. Alors peut-être qu'un autre président ira plus loin, parlera de crimes d'État dans quelques temps, etc.
Mais alors c'est quoi Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est un demi-pas mémoriel?
Ben, c'est un pas qui était nécessaire, et je crois qu'il ne pouvait pas aller plus loin aujourd'hui compte tenu de l'état de la société française. Ouais. Et il reconnaît un crime inexcusable pour la République. Il faut quand même pas plaisanter. La République, c'est quoi? C'est bien l'État, c'est bien une responsabilité de l'État. Donc chapeau à Emmanuel Macron. Il faudra sans doute faire encore un pas, et puis il faut que les historiens travaillent et fassent toute la lumière. Entre 120 et 200 morts, on ne sait pas tout. Il faut que les archives s'ouvrent, et il faut que le travail continue. Et il faut aussi, peut-être, mais ça, après, c'est à l'Algérie de voir, il faut aussi que le travail de mémoire se fasse de l'autre côté.
De l'autre côté, 01 53 48 3000, je vous attends, vous venez, vous réagissez. Raïd Chaïbi.
Bon, moi, je partage l'analyse de Pierre-Henri, et je vais même davantage compléter. D'abord, je voudrais rendre hommage au travail qui a été fait par Benjamin Stora, de regarder cette histoire en face et de faire en sorte de construire une mémoire républicaine partagée et réconciliée. déjà d'une part. Oui. D'autre part, jamais un président de la République, jamais un président de la République n'était allé aussi loin dans la reconnaissance de ces épisodes troubles de la guerre d'Algérie. Je veux juste dire à toutes ces hommes et ces femmes qui aspirent demain à être des hommes ou des femmes d'État, que le chef de l'État a reconnu notamment la disparition de Maurice Audin, la responsabilité de la France dans la disparition de Maurice Audin, le militant du Parti communiste et ardent militant de l'indépendance de l'Algérie. L'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel. Le traitement réservé aux harkis, qui est aussi un épisode douloureux de cette guerre d'Algérie. Et enfin, les crimes et les répressions sanglantes de ce 17 octobre 1961. Aucun chef d'État, de droite comme de gauche, n'est allé aussi loin. Et ce que je voudrais dire à toutes celles et ceux qui parlent du chef de l'État qui est dans la repentance et qui ne devrait pas être dans l'excuse ou la repentance permanente. Je voudrais juste dire que quand on aspire à être un homme ou une femme d'État, il faut aussi être capable de penser aux prochaines générations. Et être capable de penser aux prochaines générations, c'est faire ce travail de mémoire et de vérité et surtout de réconciliation. Et c'est comme ça qu'on laissera un héritage apaisé à la nouvelle génération. Donc je soutiens totalement ce qui a été fait, et je pense que ce qui a été fait, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qui avait été fait auparavant, c'est-à-dire des mots et pas forcément des actes.
Des mots et pas forcément des actes, effectivement.
Et juste, oui, Pierre-Henri, un mot, le communiqué de l'Élysée reconnaît également le travail de mémoire qui a été accompli par Bertrand Delanoë.
Bien sûr.
Dès les années 2000, il le nomme. Mmh. Et c'est vrai que c'est l'élu qui, le premier, on
lorsqu'il
a parlé
était maire de
manière
Paris.
Officielle, avec une plaque, etc., des débats. Voilà. Et donc, c'est extrêmement important, y compris le côté non-partisan. Je crois qu'il faut vraiment sortir de ces approches partisanes pour réconcilier un peuple ensemble pour une histoire.
Allez, 0153, je vous redonne la parole, Raïd Chaibi, s'il vous plaît. Juste une petite priorité, c'est les auditeurs qui s'emparent de la parole. Fatima du 95, bonjour Fatima.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville du 95?
Béranie-sur-Oise,
Je vous écoute. Parlez bien devant le combiné de votre téléphone, puisqu'on vous entend comme si vous étiez au loin.
Oui, vous m'entendez mieux?
Un peu mieux.
Du coup, je voulais réagir. Je pense que c'est une belle avancée quand même pour l'Algérie, qu'un président qui a été, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans
les propos. C'est Pierre-Henri qui le disait, oui.
Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans les propos. C'était très timide de la part de François Hollande. Là, on parle quand même en plus concret. En tant française, je suis née à peu près comme française, de parents et de Algériens.
D'origine algérienne, donc, oui.
Tout à fait. Donc, j'ai grandi avec cette histoire très difficile et des souvenirs de mes grands-parents, etc. Donc,
Et c'est une jeune qui parle, vous avez entendu? C'est vrai. Elle a grandi. C'est important ce que vous dites, Fatima. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit, vous avez grandi avec ça. Et
ah oui.
Le Pierre-Henri le rappelait. Et Raïd Chaibi disait qu'il fallait faire un vrai devoir de mémoire pour les jeunes générations.
Bien sûr. C'est très important.
Il a, vous avez, vous deux. C'est très. Non, mais c'est bien que vous ayez dit ça, hein, Fatima.
Ah oui. C'est très important. Et je pense que le devoir de mémoire va se faire aussi en Algérie. C'est pas
vous avez quel âge, vous, Fatima?
31 ans.
Ouais, vous êtes jeune, effectivement, vous êtes jeune.
31 ans, et maman, et j'espère aussi m'inculquer cette...
Je comprends les propos. Vos grands-parents, vous en ont parlé, vos parents, et voilà, effectivement, et pour vous, ça passe par le devoir de mémoire.
Exactement. Et donc, du coup...
Troisième génération.
Je pense que c'est très important que le président Emmanuel Macron en ait parlé en ces termes. Certes, pour l'UPS, c'est pas assez loin, mais on va s'en contenter pour l'instant.
Merci Fatima, important ce témoignage. Hein.
Bien sûr.
Et d'une jeune, réagissez.
Merci
Fatima, bon courage, merci de votre fidélité.
Je salue ce que dit Fatima. On est de la même génération. Et c'est vrai que nous n'avons pas connu cet épisode-là. Bon, je suis franco-tunisien, mais évidemment, ce qui touche à l'Algérie et cette histoire-là me touche également. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, les nouvelles générations et celles qui arrivent, de pouvoir parler de ça de manière apaisé. Et vous savez, quand je vois ces hommes politiques de droite ou d'extrême droite, je n'en parle même pas parce que c'est pour moi les dés sont pipés quand ils parlent et ils ont, enfin, c'est quand on voit la manière dont ils traitent l'histoire dans cette période-là, je ne préfère même pas en parler.
Oui.
Mais par contre, par rapport à ceux à droite qui critiquent justement cette nécessité pour le président d'avancer dans la repentance et dans la reconnaissance de cette mémoire, je pense à ce qu'avait fait Jacques Chirac en 1995, qui avait eu le courage. Alors ce n'était pas, bien sûr, c'est la même période, ce n'était pas la même histoire, mais je me souviens quand il avait fait ce discours aux Veldives en disant qu'il reconnaissait la folie criminelle de l'occupant qui avait été fait par l'État français. Il avait eu ce courage-là, lui, à un moment donné, d'être ce chef d'État et de penser aux prochaines générations. Beaucoup devraient s'en inspirer aujourd'hui.
Ouais. Bon, bah, écoutez, un petit mot avant de passer au second sujet, Pierre-Henri.
Oui, très rapidement, je pense qu'il y a aussi des personnes de la génération qui ont vécu d'une certaine manière les événements de 61 qui sont aujourd'hui totalement étonnés qu'un chef d'État puisse parler dans ces termes de ce qui s'est passé et ils en sont très émus. Mmh. Et donc je pense que sur cette émotion il y a quelque chose de positif qui doit être construit entre les deux rives de la Méditerranée.
Bien
et
sûr.
Encore une fois, tous les tripatouilleurs de mémoire doivent être laissés à distance.
Merci messieurs, on se retrouve dans une poignée de minutes juste après la pause pub. 0153 48 3000, on en parle toujours avec vous, vous nous appelez partout en France justement pour échanger. On va parler de la hausse des prix du carburant, ça explose, ça monte, c'est aïe aïe aïe. Et puis les prix à la pompe ont encore augmenté, mais de plusieurs centimes, de semaine en semaine d'ailleurs les amis. À ce prix-là, partent certains, vous savez ce qu'ils disent, que les gilets jaunes risquent d'investir les rues de France justement. Et souvenez-vous, les gilets jaunes, qu'est-ce qui avait provoqué la crise ? C'était
la taxe sur les carburants.
Merci.
Pas seulement, on en parle. Pas seulement, on va en parler.
On va en parler, justement. Vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez au 01-53-48-3000 ? Tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Bah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, on est à l'antenne, c'est comme ça, c'est vrai, effectivement, 19h39. Tout de suite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Comme quoi, c'est du live. Hausse des prix du carburant, les prix à la pompe ont augmenté de plusieurs centimes la semaine dernière, et ça tous les jours. À ce prix-là, on pourrait même, attention, se retrouver avec une vraie crise qui risque de démarrer à la même période. Messieurs, à vous la parole, Pierre-Henri.
Oui,
que
bah.
Doit-on, si j'ai décidé d'en parler, c'est que, souvenez-vous, il y a 3 ans, c'est exactement ce sujet qui avait provoqué la crise nationale.
Oui, alors, ce n'est pas simplement ce sujet. C'était aussi la limitation de vitesse à 70 à l'heure, 80 à l'heure sur les routes départementales. C'était aussi l'émergence du malaise des campagnes, de la grande difficulté que l'on connaît dans un certain nombre de territoires la République. Et il est vrai que avec l'augmentation du coût de l'énergie, on peut s'interroger sur le fait de savoir si les mobilisations peuvent repartir. D'abord, je voudrais dire que la France n'est pas le pays où l'essence est le plus cher.
Oui.
Nous sommes dans le top 5 des prix les plus onéreux. On est derrière l'Italie. Et puis alors, surtout, il y a quelque chose que je voudrais rappeler à nos auditeurs, c'est que si on prend par exemple le diesel, qui occupe encore la majorité du parc automobile français, un litre vendu grosso modo 1,50€ rapporte 90 centimes à l'État. Donc autrement dit, sur 1,50€, 90 centimes.
J'aime bien ce que vous dites, sauf que l'État s'inquiète, sauf que les gouvernements, le gouvernement en place, ils s'inquiètent.
Oui.
Ils sont même en train de parler du chèque carburant.
Oui, bien sûr.
Ils sont en panique,
bien sûr.
Mais ils sont en panique.
Je sais
la flambée des prix à la pompe les met en panique.
Oui, alors, en tout cas, ils sont obligés d'inventer une réponse. C'est une obligation. Et le problème, c'est que si jamais on se réfère simplement à 2014, on s'aperçoit
90 centimes pour l'État.
Ouais, 90 centimes. Et puis j'ajoute un autre élément. Si on se réfère par exemple à 2014, toutes les augmentations depuis 2014, c'est-à-dire environ 30 centimes, sont dues à des taxes. Il y a la taxe intérieure sur les produits pétroliers et il y a la TVA sur la taxe intérieure. Donc clairement, l'État doit faire un effort sur la fiscalité. Ouais. D'ailleurs, au passage, je fais remarquer qu'en Allemagne, alors certes, les finances de l'Allemagne sont un peu meilleures,
sont bien meilleures, bien
meilleures de la France, mais font un effort extrêmement important sur cette histoire. Et donc, je pense que le gouvernement français va être obligé de passer.
Et je vous le dis, les amis, ce n'est pas prêt. On est parti vraiment. Pour que ça dure. C'est pas prêt pour baisser. Vraiment, les prix à la pompe ne sont pas partis pour baisser. Il faut qu'on se le dise.
Ah, ils ont
Non,
à l'endroit où je vais,
ça sera toujours plus haut.
3 centimes.
Oui, mais ça sera toujours plus haut. Vous allez voir.
3 centimes. Ah non, mais je regarde. Au lieu d'1,53€, je suis à 1,50€. C'est les centres Leclerc.
Ça, c'est pour vous calmer. Et la semaine prochaine, ça va remonter.
Bah, on verra.
Vous me direz.
On verra.
Vous me direz. Rayet Chaibi.
L'augmentation des prix.
Voilà, faut arrêter la voiture.
L'augmentation des. L'augmentation des prix à la pompe, quand vous couplez à ça avec l'augmentation du prix du gaz qui a été gelé certes par le gouvernement, bon ça fait, pardon du jeu de mots, mais ça fait un peu un cocktail un peu explosif. Et c'est vrai que les Françaises et les Français ne regardent pas forcément ce que ça va rapporter à l'État, ils regardent surtout ce que ça va leur coûter. Donc c'est vrai que le clignotant est à l'orange, mais c'est un orange rouge. Presque.
Ah ben ça.
Donc, et c'est d'ailleurs, vous l'avez rappelé très justement, Adil, c'est que c'est de là où est parti, moi je pense surtout de là où est parti la première vague des Gilets jaunes, parce qu'en plus
ils
de ça.
Ils ont investi les ronds-points.
Voilà, d'autant plus que, après, on a eu en plus plusieurs semaines de flottement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, et puis quand il a fallu agir, c'était trop tard. La première manifestation, je crois qu'il était le 17 novembre 2018, avait débuté pour la suite que l'on connaît. S'agissant de l'idée du chèque carburant, c'est une piste intéressante. La seule question que je me pose, c'est sur quels critères va être réalisé ce chèque carburant, et est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Parce que il faut prendre en compte beaucoup de critères assez techniques, et est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Donc c'est oui, assez inquiétant pour la suite.
La mise au point d'un chèque carburant coûte cher à l'État, parce que évidemment, au-delà des critères, du débat nécessaire pour savoir qui va en bénéficier, faut aussi inventer le circuit selon lequel on va...
Surtout au niveau du timing, parce que pendant que les hauts fonctionnaires de Bercy, je ne suis sûr qu'ils vont réussir à produire quelque chose d'intéressant, à n'en pas douter, mais pendant ce temps-là, ça va continuer à augmenter, donc effectivement, je suis assez inquiet pour la suite.
Juste un mot, la marge du distributeur est à 1%. Et aujourd'hui, le gouvernement dit en fait au distributeur, jouez sur cette marge de 1%. En gros, ça équivaut à 2 centimes par par litre de carburant. Les distributeurs disent, mais nous, on est à l'os. On n'y arrive pas. Et même si on y arrive, ça sera quoi? Un demi-centime, c'est donc pas significatif. Donc je pense que la mesure qui est proposée d'ailleurs par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle de baisser la TVA, alors est-ce que c'est la bonne solution?
Ouais.
Je n'en sais rien, mais en tout cas, baisser la fiscalité me paraît être une nécessité.
Alors, autre question que je vous pose, finalement, est-ce qu'il faut arrêter la voiture? Et trouver d'autres moyens de maintenant de s'adapter.
Mais vous avez des où vous habitez. Hein.
Bien sûr, il y en a pour beaucoup de Français et de Français. La voiture, ils ne peuvent pas se passer de leur voiture pour aller au travail. Par quoi vont-ils remplacer leur voiture? Par un vélo? Par des rollers? Par quoi? Non, donc supprimer la voiture, ce n'est pas possible pour beaucoup de Français, c'est pas possible.
Puis, on commence à limiter, vous avez vu, le périph à 50. Demain, sur les quais de Seine d'ailleurs, il n'y a plus du tout quasiment, hein, vous le voyez, on limite. Hein, donc on en est en train de préparer les mentalités.
Oui, mais et les conséquences derrière? Les conséquences.
Alors,
les conséquences.
Dans les secteurs urbains, c'est effectivement de plus en plus difficile d'avoir un véhicule. Mais ça veut dire quoi, par exemple, sur une ville comme Paris, que ça devient quasiment impossible pour les travailleurs de la banlieue de rentrer dans Paris avec leur voiture. Au passage, le coût du stationnement est exorbitant. Le coût du stationnement dans les arrondissements centraux, c'est 12,30 € les 2 heures. Dans les arrondissements périphériques, c'est 8,30 €. Et donc, d'une certaine manière, moi, je n'ai aucune opposition à ce qu'on limite la voiture, parce que c'est vrai qu'il y a des conséquences néfastes pour la santé. Mais à partir du moment où on met des alternatives réelles, des parkings pour se garer aux portes de Paris, des navettes très fréquentes pour vous emmener.
Parce que comme un endroit.
Autre chose, si aujourd'hui vous dites, bon, je laisse ma voiture individuelle. Vous prenez le taxi, par exemple, c'était ce qui était prôné par un élu écologiste il n'y a pas très longtemps. Eh bien, je vais vous dire, moi aujourd'hui, j'ai fait une course entre le 18e et le 5e arrondissement. Ben, ça m'a coûté 25 €. 25 € pour aller du 18e au 5e. C'est injouable.
Non.
Le coût est donc...
Trop cher.
Voilà, trop cher.
Trop cher, 25 €, c'est cher. Non, c'est cher.
25 € et ça vous...
25 €.
Oui, 25 €
au 5e.
Et il n'y avait pas spécialement d'embouteillage dans la ville. Ouais. Donc... je crois qu'il faut se méfier du dogme et de l'idée toute faite selon laquelle on n'aurait plus besoin de voiture. Sauf qu'à Paris, un tiers des habitants n'ont pas de véhicule.
Allez, messieurs, nous allons traiter ce dernier.
Notamment.
Troisième sujet, dernier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. 19h48, si vous venez de nous retrouver, notamment 01 53 48 3000, Covid-19. Faut-il s'inquiéter de la hausse du taux d'incidence? Faut-il s'inquiéter tout simplement d'un Covid qui risque de repartir? Des contaminations qui sont en hausse. Alors, c'est ce qui se dit sur une semaine en France. Certains disent que c'est une première depuis juillet. Bon, messieurs, moi, j'ai pas envie d'alarmer les choses, vous savez, parce que voilà, les gens continuent de retrouver une vie normale, les gens reprennent une vie normale. Est-ce qu'ils ont tendance aussi parfois à oublier aussi les gestes barrières et le masque? C'est aussi ça.
Il y a un relâchement.
Il y a un relâchement.
Inévitablement, bien sûr.
Oui,
bien sûr. Alors, évidemment, c'est une première alerte. Faut pas être alarmiste, mais c'est une première alerte qu'il ne faut pas négliger. Et ça nous incite.
Cette alerte, c'est quoi? C'est les prémices d'une cinquième vague?
C'est une première alerte. Est-ce que c'est les prémices d'une cinquième vague? Je ne suis pas scientifique, donc je me permettrai pas d'affirmer cela. Mais je veux dire, quand on voit les chiffres qui sont annoncés, eh bien, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, il faut continuer de respecter les gestes barrières, l'utilité du pass sanitaire, la vaccination aussi qui est importante. Donc, quand je vois tous les se rassembler pour dire qu'il faut supprimer cela, on voit bien que c'est encore trop tôt et que ce n'est qu'en respectant les gestes barrières et surtout avec des mesures comme celle-là, des garde-fous comme le pass sanitaire, que peut-être on arrivera à avoir une vie normale. Mais pour moi, faut rester vigilant. Bien sûr.
Donc c'est
restons vigilants. Alors, je voudrais prendre le cas, par exemple, du Danemark, qui a mis fin au pass sanitaire il y a un mois. Et le nombre de cas quotidiens vient de doubler. Il reste relativement bas, mais il vient de doubler. Simplement, au Danemark, l'extrême majorité de la population est vaccinée. Et donc, même si le nombre de cas de Covid déclarés augmente, il n'y a pas d'incidence véritable sur
les hôpitaux.
Hôpitaux et sur les formes graves, puisqu'on le sait, le vaccin protège des formes graves. Donc, d'abord, premier message, il faut continuer à se vacciner pour ceux qui ne le seraient pas. Il faut aller au-devant, etc. Deuxième élément, c'est plutôt un constat, le pass sanitaire a fonctionné. Il a fonctionné parce qu'il a permis à ce que, grosso modo, 80% de la population française soit aujourd'hui
vaccinée.
Et troisième élément, attention, pour éviter une cinquième vague, sans doute va-t-il falloir se vacciner et prendre la troisième dose, et notamment qui est déjà aujourd'hui ouverte pour les plus de 65 ans et ceux qui ont qui sont en fragilité et qui ont des morbidités.
Si je vous dis, messieurs, en Russie et au Royaume-Uni, les contaminations en Covid-19 sont en forte hausse. Plus de 1000 morts en une journée, ça c'est l'épidémie du Covid-19 qui explose en Russie. La flambée des cas se poursuit en Russie et elle devient inquiétante. Vous répondez quoi, messieurs? Ça vous fait sourire.
Je réponds que, évidemment...
flambé hein, en Russie. Hein,
oui, oui, mais tout le monde n'est pas vacciné. Enfin, on ne mesure
pas, tout le monde n'est pas vacciné.
On ne mesure pas la chance que nous avons dans notre pays, exactement, et dans la plupart des pays européens, d'avoir eu accès au vaccin. La couverture vaccinale dans le monde est d'une profonde inégalité. Et s'il y a un combat que l'on doit mener, c'est bien celui de l'égalité vaccinale. On imagine que de l'autre côté, par exemple, de la Méditerranée, les taux de vaccination, malgré les efforts qui ont été faits, reste très bas. Ouais. Et donc, voilà, moi, je rêve comme responsable politique qui, plutôt que d'appeler à la manifestation contre le pass sanitaire, appelle plutôt à la solidarité.
Mais ce sont plutôt des irresponsables, parce qu'ils font passer leur idéologie au détriment de la santé publique. On le voit bien. Donc il faut continuer. Mais bien évidemment, oui. C'est inadmissible, c'est irresponsable.
Irresponsable.
Totalement.
Merci à Pierre-Henri.
Merci.
Le patron de France Fraternité, mais également aussi le rendez-vous à ne pas manquer, mesdames et messieurs, tous les samedis, dimanche, 8h20, avec les mots piégés. N'est-ce pas?
Merci.
Raïd Chebbi, président, le patron aussi également de l'association La Coopération France-Tunisie.
Merci Adil.
Au plaisir, messieurs.
Au plaisir.
Tout de suite, c'est Time Sport avec Bilal Nedman qui prend le contrôle de 20h à 21h. Mais pourra-t-il venir annoncer le programme?
Avec une équipe
cours dans
l'OM.
Les couloirs. Cours, Bilal.
Allez, l'OM.
Allez, l'OM.
Cours. Foutine dans le. Regardez, je vous donne les coulisses. Il est en train de parcourir les couloirs de la radio. Le voici, il arrive. Ça y est. Enfin, il a battu le record. Bravo pour le record. Quel est le sommaire rapidement? Bonsoir, Bilal. Attends, le micro n'est pas ouvert.
Tiens. Très les auditeurs de Beurre FM. Non, oui. Monsieur Henri, on va parler de l'Olympique de Marseille.
Très bien.
Hier, leur victoire écrasante face à Lorient.
Très bien. Très bien.
Ouais, et après, on va parler du Paris Saint-Germain qui reste
un peu. Faut parler de l'OM, de Marseille, s'il vous plaît.
Ouais. On accueille
Allez,
ici. On accueillera Chérif Guémour aussi, qui nous a fait un magnifique livre aux éditions Larousse sur les remontadas. Eh oui, les fameuses remontadas.
Invité Jean-Jean Sampaoli un jour.
Ouais. Et aussi, après, on parlera des déclarations de Benjamin Pavard.
Ah, voilà. Super.
Ah, oui. Voilà, ça aussi.
Joli programme qui vous attend de 20h super. À 21h. Merci, Bilal.
Merci. C'est et allez, l'OM. Suite.
Allez, le PSG. Merci, à demain avec autant de plaisir. Merci à la réalisation, merci Yanis. On lâche rien. À demain, bonne soirée.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.